Moitié sud d'ailleurs, il fait actuellement 22 degrés à Nice. Et puis donc dans l'après-midi, 20 à 24 degrés sur le tiers nord, 24 à 30 degrés plus au sud et jusqu'à 32 degrés dans le sud-est.
Jean-Christophe nous écoute dans les Cévennes. Catherine attend de la pluie à Saint-Germain-en-Laye. Claire, en quelques mots, le temps pour le début de la semaine?
Ça sera une semaine très estivale avec encore quelques petits nuages au nord. Bon, évidemment, plein soleil au sud, mais là j'attire surtout votre attention sur les températures. Elles vont à nouveau grimper en flèche, surtout par le sud-ouest. On peut attendre à partir de la mi-semaine des pointes allant de 34 à 36 degrés dans le quart sud-ouest.
Merci Claire, vous écoutez RTL, il est 7h.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
Et le journal avec Chloé Geffroy. Bonjour Chloé.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
À la une, RTL à bord d'un avion chargé du largage de l'aide humanitaire française au-dessus de la bande de Gaza.
Reportage exceptionnel à écouter dès le début de ce journal aux côtés des militaires. Un défi logistique majeur. La mise en examen d'une infirmière de l'hôpital de Montreuil soupçonnée d'agression sexuelle sur des nourrissons. Elle dit avoir agi sous l'emprise de son compagnon. Au programme également 1 million de jeunes catholiques à Rome pour le jubilé, événement XXL, le pape à la tête d'une grande messe ce matin. Et puis on sera à la recherche de l'été et des degrés. On sera à Paris-Plage sur les quais de Seine où la veste semble obligatoire.
RTL Matin.
Au-dessus de la bande de Gaza, la France poursuit le largage d'aide humanitaire.
L'opération a commencé vendredi. Au total, 40 tonnes de vivres ont commencé à être parachutées depuis les airs. Les denrées les plus simples devenues les plus rares dans l'enclave palestinienne. Les avions vont encore décoller aujourd'hui dans le désert jordanien. Emmanuel Michel, vous étiez hier, et c'est exceptionnel, aux côtés de l'armée française dans un avion chargé du largage.
Il est 6h du matin sur la base aérienne militaire Prince Hassan, au nord de la Jordanie. C'est ici que des soldats français s'apprêtent à décoller pour survoler Gaza. Ils font partie du 1er régiment de trains parachutistes spécialistes dans les largages de matériel. À bord de leur avion, un C-130, 4 grosses palettes remplies de denrées alimentaires, principalement de la farine et du lait en poudre. Le sergent-chef Fessal vérifie une dernière fois les parachutes accrochés à chaque colis.
On va décoller. Vu l'avion, il va prendre une assiette de cabrage, donc il va s'incliner à peu près 7 degrés, ce qui va permettre à la charge de elle glisser sur les chemins de roulement et de sortir de l'avion.
Le pilote, le commandant Pierrick, a été briefé ce matin sur les lieux de largage à viser dans la bande de Gaza.
Ici, un environnement très urbain, ce qui est quelque chose qui n'est pas commun pour faire des livraisons par air, l'appellation que nous avons pour ce type de largage humanitaire. Mais il faut savoir que les références, par exemple, en milieu urbain, vont être assez compliquées à avoir, puisque tous les bâtiments vont beaucoup se ressembler, la proximité d'autres zones peut rendre le largage, l'acquisition visuelle compliquée.
Une heure de vol, puis nous passons à basse altitude, à 600 mètres de hauteur. À travers les hublots, nous voyons des villes dévastées, un champ de ruines. Nous distinguons en bord de mer des centaines de tentes où les Gazaouis sont venus se réfugier. Nous sommes au-dessus de Zaweida, dans le centre de l'enclave. La porte arrière de l'avion s'ouvre, les palettes sont larguées. Leurs parachutes se déploient, elles tombent vers le sol. La même opération sera répétée dans les jours qui viennent. 40 tonnes seront en tout parachutées.
Emmanuel Michel, envoyé spécial M6 et RTL avec l'armée française en Jordanie. Le largage, méthode par ailleurs jugée coûteuse et dangereuse par les associations. Les écologistes demandent à Emmanuel Macron dans la tribune dimanche de déployer la marine nationale pour apporter l'aide humanitaire à Gaza.
Une infirmière de l'hôpital de Montreuil mise en examen.
Soupçonnée d'agression sexuelle sur des nourrissons, de captation et de diffusion d'images à caractère pédopornographique. Âgée de 26 ans, la jeune femme s'est elle-même dénoncée au commissariat. Plana Radenovic, elle assure avoir agi sous l'emprise de son compagnon.
Oui, car le magistrat a mis l'ex-compagnon de l'infirmière en examen pour complicité d'agression sexuelle sur mineur par instigation. C'est d'ailleurs conforme au récit de l'infirmière mercredi soir lorsqu'elle pousse la porte du commissariat de Clichy-sous-Bois. D'emblée, elle dit aux policiers avoir agressé sexuellement ses tout petits bébés, mais elle affirme qu'elle était alors pilotée à distance par son compagnon de l'époque. Elle dit qu'elle était sous emprise. Aucun des deux mis en examen n'a été placé en détention à l'issue, contrairement aux réquisitions du parquet. Ils sont tous les deux sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une profession en lien avec les mineurs. Pour le moment, en effet, l'enquête et l'analyse des vidéos des agressions a permis d'identifier 2 petites victimes.
Les précisions de Plana Radenovic du service police justice de RTL. Au large de Gravelines, dans le nord, les recherches en mer se sont interrompues hier soir, là où un enfant d'une dizaine d'années est toujours porté disparu. 2 autres, eux aussi en difficulté dans l'eau, ont pu regagner la plage seule et donner l'alerte avant d'être transportés à l'hôpital.
Débiter le compte bancaire d'un fraudeur ou géolocaliser les transports sanitaires.
Catherine Vautrin, ministre du Travail, a dévoilé hier les axes du projet de loi contre la fraude sociale attendue à l'automne dans un entretien accordé aux Parisiens. Un texte musclé qui vise à renforcer les contrôles et les sanctions alors que le préjudice de la fraude sociale est estimé à 13 milliards d'euros par an. Denis Gravouil, secrétaire confédéral de la CGT, estime que ces mesures sont inutiles. D'après lui, c'est à la fraude patronale qu'il faut s'attaquer.
La seule chose qui intéresse du côté de Madame Vautrin, c'est la fraude des assurés. Or, la fraude des assurés, elle est minime. La fraude, par exemple, à l'assurance chômage dont elle parle beaucoup, c'est 0,3% des allocations. Donc, faire tout un cirque autour de la fraude aux allocations chômage, c'est un scandale parce que, par contre, on sait qu'il y a un taux de non-recours à l'assurance chômage de gens qu'on va pas chercher et qui pourraient avoir droit à les allocations, qui est peut-être de l'ordre de 30%. La véritable fraude, c'est la fraude patronale. C'est la fraude de patrons qui ne payent pas leurs cotisations sociale. La Cour des comptes avait estimé qu'il y avait entre 5 et 8 milliards d'euros à récupérer dans ce domaine-là. Donc là, ce discours de la fraude sur les assurés, c'est un discours pour culpabiliser tout le monde. Commençons par lutter contre la fraude patronale.
Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT, au micro de Nathan Bocard. Ce futur projet de loi intégrera aussi des mesures contre la fraude fiscale qui seront présentées prochainement. Ils pourraient être débattus au Parlement d'ici la fin de l'année. Dans l'actualité également, les chèques vacances au cœur d'une campagne d'escroquerie sur Internet. Les cyber-escrocs ne partent pas en vacances ou peut-être comptent-ils les réserver avec votre argent. Vos chèques vacances arrivent à expiration. Attention donc à cette redoutable arnaque qui fait croire aux salariés qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un coup de pouce financier pour partir en congé.
Nous sommes le 3 août et quelque peu à la recherche de la chaleur.
Thermomètre capricieux. Depuis quelques semaines, c'est le moins qu'on puisse dire. Grisaille, pluie, où est l'été? Question tout de même à relativiser. Météo France prévoit une nouvelle hausse des températures largement au-dessus des normales à partir du milieu de la semaine prochaine. Reportage sur les quais de Seine à Paris-Plage où les Parisiens profitent sur leurs chaises longues, les pieds dans le sable. Mais ils sont quand même nombreux à avoir gardé la veste, les aménagés.
Les chaises longues sont dépliées et les Parisiens ont mis les pieds dans le sable, mais ils ont gardé la veste. Pour Anne-Laurie, c'est un été
plutôt froid. On a eu un beau mois de mai et de juin, mais mois de juillet, pas terrible. Ouais, je pensais pouvoir sortir les robes, quoi. Là, j'avoue, je suis plus en jean, donc et avec une petite veste, au cas où.
Un peu un manque de soleil, quand même. On dirait pas qu'on est le 2 août. On a des gros pics de température après des grosses baisses. Pas mal de pluie, je trouve. On n'a pas encore l'esprit vacances, mais bon.
Alors certes, les 2 dernières semaines ont été un peu inférieures au normal de saison, mais rien d'exceptionnel. Le mois de juillet dans son ensemble a même été un peu plus chaud que la moyenne selon Météo France et ça convient parfaitement à Alexia, 36 ans.
Salopette, pieds dans le sable, pieds nus, voilà, on se croit en vacances presque. C'est pas forcément une météo de plage, mais étant enceinte, moi ça me dérange pas trop. J'apprécie les petits nuages et la petite fraîcheur parisienne.
Mais avec ces températures changeantes, il faut constamment regarder la météo. Alors au cas où, Alexia et son compagnon avouent garder toujours un imperméable avec eux.
Léna Ménager, le reportage à Paris. Léna qui le disait, Claire, les températures, finalement, elles n'étaient pas si fraîches que ça pour un mois de juillet.
Alors, globalement, c'est vrai qu'on se rapprochait de la température de saison à l'échelle nationale, puisqu'on gardait des températures très fortes en Méditerranée à plus de 30 degrés, ce tout le mois de juillet, donc ça n'a pas bougé. En revanche, partout ailleurs, c'est vrai que c'était quand même un petit peu frais. On était 3 à 4 degrés en dessous des normales. On avait l'anticyclone des Açores qui était vraiment au large de l'Atlantique, laissant rentrer des perturbations donc océaniques et donc forcément aussi accompagnées de leur vent qui était beaucoup plus frais que d'habitude.
Les explications de Claire Delorme. C'est l'événement le plus attendu de l'année pour les jeunes catholiques du monde entier.
Le jubilé célébré tous les 25 ans dans l'église catholique, une année sainte pour aider les croyants à approfondir leur foi. À Rome, Léon XIV préside ce matin une grande messe de clôture, point d'orgue de l'événement devant 1 million de jeunes pèlerins qui ont dormi cette nuit à la belle étoile veillée XXL comme Lucas. Un étudiant de 22 ans venu de Orléans. Il est à Rome depuis le début de la semaine.
Spirituellement, c'est presque reposant. On voit le monde qui est là pour la même raison que nous. Et moi, personnellement, je me sens apaisé de voir tout ce monde, en fait. Même si c'est fatigant physiquement. Mais spirituellement, c'est très beau à voir et ça... ça compense. Moi, je venais beaucoup pour y retrouver ce que j'avais vécu donc 2 ans auparavant au JMJ de Lisbonne, où j'avais fait plein de rencontres avec les autres, c'est la rencontre moi avec le Christ. Chaque fois que j'ai pris le métro, c'était un différent pays qui se mettait à chanter une chanson religieuse de leur pays, et on voit beaucoup de diversité, mais en même temps, cette unité dans cette diversité qui est belle, en fait.
Un propos recueilli par Gabriel Laprade.
Lui et le pape des bassins à Singapour, Léon Marchand se prépare pour sa finale du 400 mètres 4 nages.
Le quadruple champion olympique s'est qualifié ce matin, mais dans la douleur, Léon Marchand est en petite forme.
Ça s'est pas passé comme prévu. J'étais un peu dans le dur. Bizarre parce que j'ai bien dormi, je me sentais bien ce matin. Mais voilà, c'est la natation, donc à un moment tu te plonges et tu te sens pas bien.
Ça t'inquiète un peu ?
Je crois que sur les derniers championnats du monde, je nage 4-8 et 4-9 le matin. Donc oui, ça m'inquiète. Après, j'ai une ligne ce soir. Donc au final, ça passe. Mais voilà, ce sera mieux ce soir.
Léon Marchand, micro d'Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL à Singapour. Et l'on lui souhaite évidemment bonne chance. La France a pour le moment 6 médailles. Hier, Maxime Grousset a doublé la mise, sacré champion du monde sur 100 mètres papillon. 5 jours après son titre sur le 50 mètres papillon, il a signé le 3e meilleur chrono de l'histoire et battu le record d'Europe du Hongrois Christophe Milak.
Et à 8h moins le quart, on sera avec Isabelle Langer, hein, envoyée spéciale de RTL à Singapour. RTL, événement avec elle sur Léon Marchand dans les bassins ce dimanche.
Le Tour de France Femmes, la 9e et dernière étape, c'est aujourd'hui entre Praz-sur-Arly et Châtel. Pauline Ferrand-Prévot en passe de gagner la compétition. Elle a récupéré le maillot jaune et pris une considérable avance sur ses concurrentes. 2 minutes et 15 secondes.
Et puis comme un air de NBA en plein quartier nord de Marseille.
Un mystérieux bus scolaire américain équipé de paniers de basket sillonne depuis le début de la semaine la cité phocéenne. On l'appelle le Hoop Bus. Ses passagers, des basketteurs venus faire découvrir leur passion aux jeunes des quartiers défavorisés et montrer que rien n'est impossible, Hugo Hamelin.
Oui, autant vous dire que ce bus tout jaune dans les quartiers nord n'est pas passé inaperçu.
Waouh ! Ah, il y a New York à Marseille et tout.
Avec ces concours de dunk, vous savez, c'est quand on marque en s'accrochant au panier. L'idée, c'est de frapper l'imaginaire des enfants, des ados, et de montrer que la passion, ça peut emmener très haut. Adem a 11 ans.
Et après, je voyais les autres en train de dunker et c'est bien. Genre, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. De base, ici, il n'y a que des petits jeux et tout. Mais là, c'est la première fois que ça m'arrive. Que, je sais pas, il y a un club de NBA qui vient.
Comme une parole qui entraîne, comme un exemple qui enseigne.
Artiste basketteur, éducateur de rue, l'équipe est composée de joueurs au profil atypique, comme Kadour Ziani. Il a 52 ans, c'est une légende, parti de son quartier de Saint-Dizier, faire des shows sur les parquets américains.
Dans les quartiers, on est beau et on est excellent, mais on ne sait pas en quoi. C'est tout ce noyau atomique là, tu vas servir le monde avec cette énergie. Moi, j'ai réussi à faire le tour du monde, j'avais que mon corps comme moyen. Mes jambes, c'est des avions, je suis en BM double pied, j'ai volé au-dessus du monde. C'est ça que je veux leur ramener.
La mission est totalement réussie. Prochaine étape pour le Hoop Bus, les plages du Mourillon, cet après-midi du côté de Toulon.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
Dans le journal de Chloé Geffroy. Merci Chloé. Toute l'actualité sur RTL.fr. On vous dit à tout à l'heure. Les courses. Le Quintet, nous sommes à Deauville. Départ à 15h15. Les pronostics RTL d'Alexandre De Kopman. Le 2, le 3, le 4. Le 16, le 14, le 15, le 9, l'outsider de RTL, c'est le numéro 16. Martine nous écoute dans l'Hérault, la Tramontane souffle toujours. Régine nous souhaite une bonne visite de la Bourgogne, ça tombe bien. La suite, c'est dans un instant. Visite de cave et dégustation de fromage, voilà le programme.
Antoine Cavalleroux, RTL Matin Weekend.
Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français.
Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3 Adata. Baromètre Posterna Kifop, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault, pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. On en parle.
L'Institut Pasteur œuvre pour transmettre aux générations futures un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Arnaud Fontanet, chercheur.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole est au Cinsault, un cépage rosé à l'élégance discrète.
Discret, discret. Moi, je dirais plutôt souple. Bien élevé sous le soleil du Pays d'Oc, je donne d'excellents rosés. Ronds, légers et fruités, qui se marient avec toutes les recettes estivales. Et je vais vous dire, vous pouvez même me boire en rouge, légèrement rafraîchi. Si c'est pas de la souplesse, ça.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Vous écoutez RTL ? RTL vous écoute.
Nous vous souhaitons un bel été 2025.
À l'écoute de RTL.
Le soleil, la plage et RTL, bien sûr.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente période estivale. Reposez-vous bien.
Prenez soin de vous.
RTL, c'est vous. RTL Matin, le week-end, avec Antoine Cavallero.
7h14, on est ravis de vous accompagner ce matin. La balade se poursuit, la Bourgogne, qui fait partie des régions plutôt bien servies en matière de terroir. Jean-Sébastien Petit-Demange, bien sûr. Il y a les vins, mais vous avez d'autres joyeusetés en catalogue.
Alors pour ce qui est des vins, c'est vrai que la porte d'entrée en venant de Paris, c'est le vignoble de Joigny. On pense évidemment aussi au Chablis. 4500 hectares de Chardonnay pour 4 appellations. Et puis il y a Tonnerre, Vézelay, avant la grande plongée sur la route des vins des grands crus de la Côte d'Or. Alors en parlant de Chablis, faut absolument goûter à l'andouillette de Chablis. On la doit.
Bon péché mignon.
On la doit à un charcutier, à un aubergiste de Chablis qui l'ont inventé en 1880. L'andouillette de Chablis, elle est préparée à la main. Elle est plus longue que les autres andouillettes. Sa texture est moelleuse, elle a un goût épicé. Et sa spécificité, c'est la quantité de matière première. D'abord, la viande est française. Elle est coupée en grandes lanières et non hachée. Elle est assaisonnée, enrobée dans une robe de porc de grande longueur, puisqu'elle fait 1m50. Elle est tirée à la ficelle. Et ensuite, on la cuit doucement, longtemps, dans un bouillon. Et grâce à cette fabrication, eh bien, elle n'éclatera pas quand on la cuit chez soi.
Autre must, Jean-Sébastien, le jambon persillé.
Alors ça, c'est mon péché mignon. C'est une charcuterie emblématique de la cuisine bourguignonne. On peut l'apprécier partout. Maintenant, on en trouve un peu partout. Heureusement, il est élaboré à base de jambon et d'épaule de porc cuit dans un bouillon de légumes avec une cuisson qui est ensuite enrobée de gelée, qui est faite avec la couenne de porc, avec des aromates, avec du vin blanc, du vinaigre. Et bien sûr, on ajoute, et c'est ce qui fait le plaisir du persil haché, beaucoup de persil.
Le jambon persillé avec quelques gougères au comté.
Oh, miam.
Et voilà et la recette de l'apéro idéal avec les cornichons. Merci Jean-Seb. Flora Granchette, vous êtes à Joigny en direct et sur la route, vous êtes arrêtée, on l'a vu à Sens, vous avez visité la cathédrale mais surtout la halle pour le marché et vous avez notamment parlé d'Ouce Crèmerie avec un fromager.
Et oui, j'ai juste traversé le parvis de la cathédrale de Sens pour découvrir ces magnifiques halles faites de briques et de verrières et avec sur sa façade une grosse horloge. Et à l'intérieur, j'ai pu échanger avec Pascal Leroux, fromager de père en fils depuis 1973. Sur son étal, ça déborde de fromages en tout genre et il y a pas mal de produits, il connaît. Car Pascal, Lyon, c'est vraiment une terre de fromage.
Alors oui, c'est une terre de fromage depuis toujours. On retrouve des fromages de brebis. Parce qu'on a des producteurs de fromage de brebis, on a des producteurs de fromage de chèvre, des fromages de vache. On a des fromages de vache assez connus, tels que, par exemple, le Chaours, où vous avez une partie de la zone d'appellation qui va se trouver dans Lyon. Et puis, bien sûr, la fierté de Lyon, c'est notre fromage, le Soumaintre. Hein. C'est-à-dire que c'est un fromage à croûte lavée, un peu comme le Master ou les Poisses. Et puis, c'est un fromage qui a été disparu. Et donc, mon papa a contribué à le réhabiliter.
Les clients, quand ils viennent chez vous, justement, quand on veut un fromage de Lyon, on prend celui-là tout de suite?
Alors, nous, c'est celui qu'on propose, voilà. Et puis, bon, notre fromage, aujourd'hui, on le commercialise dans toute la France.
Et est-ce que les Poisses, quand même, ça reste aussi une valeur sûre
Alors, les Poisses, oui. Les Poisses est plus typé Côte d'Or que Lyon. On est dans la même famille, les Poisses, c'est notre grand cousin.
C'est un fromage qu'on peut utiliser aussi pour la cuisine, comme les Poisses?
Tout à fait, on peut l'utiliser. Le sous-maintrain, on peut l'utiliser un peu sous toutes les formes. Hein. On pouvait trouver plein de recettes sur notre site. Des grands chefs ont eu l'amabilité de bien vouloir nous le cuisiner. Vous pouvez le faire fondre, vous pouvez faire des tartines, vous pouvez le manger comme ça, vous pouvez faire des sandwichs. Enfin, vous pouvez faire tout ce que... Faut en manger matin, midi et soir.
Attention à la digestion avec tout ce fromage quand même. Autre raison pour ne plus hésiter à manger du sous-maintrain, il bénéficie depuis 2016 d'une indication d'origine protégée. De quoi mettre mettre en lumière le savoir-faire de Pascal Leroux et des autres fromagers de Lyon.
Et moi, j'ai de plus en plus faim. Merci beaucoup.
Même dans le fromage, on peut être chauvin département.
Ouais, c'est ça qui est formidable.
Département. Hein.
On adore notre pays pour ça. Merci Flora en direct de Lyon. On continue la balade dans RTL Matin Weekend. Dans une demi-heure, on fera du bateau le long du canal de Bourgogne. Jean-Seb, oui. Un petit bonus, les anis de Flavigny.
Oui, alors là aussi, on est en Côte d'Or. On est à Flavigny sur Auzin. Moi, j'adore cette petite pastille comme ça. Ça remonte aux Romains, à Vercingétorix. Les Romains avaient apporté avec eux de l'anis dans leur pharmacopée. Les graines d'anis sont restées et elles sont à l'origine de ces petits bonbons de l'abbaye de Flavigny. Les moines l'inventèrent au XVIe siècle. Aujourd'hui, vous savez, c'est le dessin de la bergère et de la bergère, un peu vintage. Ce dessin fait le tour du monde. Et il y a une graine d'anis à l'intérieur de chaque bonbon. Et vous savez qu'il faut 15 jours pour faire un bonbon. Parce qu'on met la petite graine dans un bain de sucre. Et ça roule, ça roule, ça roule pendant 15 jours. Et puis ça fait des petites, toutes petites boules de neige de sucre.
Et ça donne les anis de Flavigny avec leur boîte iconique. Merci Jean-Seb. Il y a le jeu du dimanche également, Claire. Rappelez-nous, que gagnent les auditeurs ce matin ?
Un week-end avec le boat pour 4 personnes. Donc ce sont des bateaux sans permis, très faciles à manœuvrer. Il faut savoir que le bateau est tout équipé. On a des cabines, des salles de bain, une grande terrasse. Et vous avez en plus 18 destinations, dont évidemment la Bourgogne. Donc si vous voulez tous les détails, rendez-vous sur leboat.fr.
Et on joue avec le département de Lyon. On cherche 3 artistes. D'abord un chanteur qui aime les grands fauves.
Et tu sais, les Lyons.
Sur proposition de Jean-Sébastien Petit-Demange, on cherche une star américaine qui a Lyon dans son prénom.
Un peu.
Oui, non, mais j'ai validé. Après, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire.
Un travail d'équipe.
On cherche une artiste qui aime les comparaisons.
Auxerre, c'est pas Memphis.
C'est vrai.
Angèle, c'est pas Hendrix.
Et si vous avez les 3 bonnes réponses, vous appelez le 32 10 3 2 1 0. Le standard vous attend pour tenter donc de remporter un week-end pour 4 personnes avec le boat. Merci de nous écouter, il est 7h21.
Les coups de pouce de RTL avec la Fondation de France.
La Fondation, notre partenaire, qui soutient plus de 12 000 initiatives solidaires dans tout le pays. Cet été, RTL tend son micro à ceux qui s'engagent pour les autres. Ce matin, direction le Pays Basque, l'association Gurekin. Elle propose des maisons partagées aux seniors isolés ou qui n'ont plus de logement adapté. J'ai appelé Annabelle Pachon-Trouche, la coordinatrice du projet.
C'est des personnes de plus de 65 ans qui sont autonomes, semi-autonomes et qui ont surtout l'envie de sortir et de rompre de leur isolement et de venir partager des moments collectivement.
À quoi ressemble une maison partagée Gurekin ?
Déjà, c'est 8 à 10 seniors qui vivent ensemble, qui ont chacun quand même un appartement. Et ces 10 seniors qui vivent dans cette maison ont également des espaces partagés où là, ils se réunissent régulièrement autour d'un café. Là, on vient de passer l'après-midi à faire des smoothies. Ce matin, ils sont partis au marché de Peyrorade. En fait, il y a une vie qui se fait collectivement au rythme des uns et des autres. L'idée, c'est surtout pas de faire une communauté avec des obligations, mais de laisser le senior choisir de comment il a envie de vieillir et puis surtout d'avoir ce lien social entre eux et puis avec le quartier dans lequel ils habitent.
Oui, donc les résidents vivent ensemble, Annabelle Pachon-Trouche partage des activités, il se passe finalement toujours quelque chose dans une maison Gurekin.
Alors, il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est surtout que ces choses à faire, c'est les personnes qui décident. Nous, l'association Gurekin, on est gestionnaire de la maison, le bailleur social reste propriétaire et nous on accompagne en fait les seniors à décider et à animer en fait leur quotidien. Donc tous les mois en fait ils se réunissent et on fait une organisation, un programme sur des sorties, des ateliers, ça peut être des ateliers créatifs, il y a 2 mois on a fait un atelier théâtre, voilà, ça peut être vraiment des activités variées. On fait également des rencontres avec des associations locales. Il n'y a pas très longtemps, il y a l'association l'association de l'âge d'or du territoire des seniors qui est venue dans la maison partagée au niveau des espaces collectifs et des jeux de société se sont faits pour se rencontrer, pour échanger, pour... Bon voilà, on essaye en tout cas de les accompagner à mettre en place des activités qu'ils ont envie de faire.
Et donc actuellement, il y a une maison à Ourthe dans les Pyrénées-Atlantiques. Deux autres sont en construction. Merci à Annabelle Goulekin, une association soutenue par la Fondation de France. Toutes les informations sur fondationdefrance.org.
RTL Matin avec Antoine Cavallero.
À venir dans le journal de 7h30, les arnaques aux chèques vacances, elles se multiplient. Les Bouches-du-Rhône en alerte rouge au feu de forêt, les massifs sont fermés, même celui de la célèbre calanque de Sormioux. Et puis tous les sports, Léon Marchand a eu du mal, il se qualifie de justesse pour la finale du 400 mètres 4 nages aux Mondiaux de Singapour.
Roman Bakli sur RTL. Un livre dans la valise.
Vous adorez ses imitations, son humour ciselé, mais à quoi ressemble la bibliothèque estivale de Laurent Gérard ? Roman Bakli pose la question à tout un tas de personnalités. Voici donc son entretien avec l'humoriste.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour.
Alors c'est l'été, le temps des copains et de l'aventure, mais aussi et surtout celui de la lecture. Alors je me suis demandé, quand il ne fait pas parler Johnny Hallyday, Yves Montand ou François Hollande, que lit Laurent Gérard pendant ses vacances ? Du polar, des autobiographies de chanteurs oubliés des années 60 ou des mémoires d'anciens ministres ? Que lisez-vous ?
Un peu tout. C'est vrai que je suis un grand lecteur. J'aime être entouré de livres. L'été, je suis plus... Je prends toujours un Sant'Antonio. Quand j'étais au collège, on a vu un texte de Sant'Antonio au brevet des collèges qui s'appelait « Partir, c'est pourrir un peu ».
C'est marrant. Voilà. C'est comme ça que s'est passée la découverte de Sant'Antonio.
Et puis c'est vrai que je suis allé dans la bibliothèque de mon grand-père et j'en ai trouvé un ou deux et j'ai adoré. En fonction des voyages que je fais, j'essaye de choisir des lectures qui correspondent. Donc, comme je vais beaucoup à la montagne, ça va être aussi des récits de montagne. J'aime bien être dans mon chalet. Voilà, je peux me mettre à la fois sur la terrasse, être dans la nature. Et j'ai beaucoup de livres sur les plantes. Il y a 1000 espèces de fleurs au col du Mont-Cenis, donc c'est vrai que c'est bien d'aller avec un livre pour les identifier.
Est-ce qu'il y a un livre qu'on aime offrir aux copains, qu'on glisse dans un sac et un dîner un peu comme une bonne bouteille, selon vous ?
J'ai souvent offert le livre de Michel Onfray, Cosmos. J'aime beaucoup ce livre, il y en a beaucoup. Jean d'Ormesson aussi.
Bien sûr, justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un écrivain que vous inviteriez à partager, non pas un transat puisque vous n'allez pas à la plage, mais du moins une partie d'un chalet ?
Déjà, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'écrivains, notamment Jean d'Ormesson. Puis mon ami Anne Kefelec, voilà. Je sais que la Bretagne et la montagne ont beaucoup de points communs.
Eh bien, merci Laurent Gérard de nous avoir emmenés dans vos valises et dans les pages de Sant'Antonio. Comme quoi, parfois, il suffit d'un seul livre, le bon, pour voyager loin. Bonnes vacances, Laurent.
Merci.
Laurent Gérard, que vous retrouverez dès le 25 août dans la matinale de Thomas Soto, aux alentours de 8h50. Roman Bakli, un livre dans la valise. Prochain épisode dimanche prochain avec Bernard Minier. Philippe a 11 petits degrés à Brive-la-Gaillarde, mais le ciel a le bleu des yeux de Claire Delorme.
Oh, puis on a Michel qui est de Nevers, donc 9 degrés actuellement dans ma ville de naissance. Bonjour Michel et qui nous souhaite aussi une très très bonne journée.
C'est Radio Claire Delorme ici, Jean-Sébastien.
Yves aime beaucoup notre balade en Bourgogne sur Instagram. Il a visité hier Saint-Émilion, aujourd'hui il visite Bordeaux. Lui qui habite Saint-Hyor, ça le change.
Continuez de nous écrire vos grosses têtes. Voici votre extrait du matin avec le steward Jean-Phi Janssen.
Bonjour monsieur Ruquier, que désirez-vous boire ?
Je dormais, m'emmerde.
Je suis en train de regarder un film.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir,
monsieur Ruquier ? Je prendrais bien un petit jus de tomate.
Bien sûr, monsieur.
Il n'y a que dans l'avion qu'on prend des jus de tomate.
Ouais.
Non, parfois.
Vous avez du sel au céleri également ?
Pardon ?
Quoi ? Vous avez du sel au céleri ?
Je comprends rien.
Comprends pas.
On est sur Air France.
Du céleri ? Et vous voulez des chips de betterave ?
Vous dites du céleri rémoulade, pas du céleri rémoulade.
Bah, si, céleri.
Céleri. Il y a un E. C'est céleri.
Il y en a même deux. Non, il n'y a pas d'accent sur le deuxième E.
Oui, ça fait de l'animation.
Les grosses têtes, rendez-vous 15h30 sur RTL quand vous le voulez sur l'application RTL. Au programme de la prochaine demi-heure, RTL événement, Léon Marchand, le Toulousain, un peu dans le dur hein, ce matin, on vous le dit dans les journaux, nous serons avec Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL à Singapour. Notre visite de la Bourgogne et son fameux canal, et je vous le signale désormais, à 8h10, nous retrouvons l'une de vos chroniqueuses préférées, Muriel Gilbert, sera là pour nous apprendre des choses sur la langue française. La météo, ça c'est avec vous Claire Delorme. Je vous signale le message de Carole qui a 6 degrés au pied des pistes à Métabier, ça caille, nous dit-elle. Mais super festival, par ailleurs.
Oui, c'est vrai. En même temps, on est proche des montagnes et c'est vrai qu'avec le relief, eh bien, on est surtout à cette saison-là. Il peut encore faire un petit peu frais le matin. On a cette fameuse France coupée en deux aujourd'hui avec des nuages au nord et beaucoup de soleil dans le sud. Donc pour entrer dans le détail au niveau du sud, ça sera vraiment du soleil toute la journée avec une ambiance quand même bien venteuse, bien ventée en Méditerranée jusqu'à 70 km/h en rafale, surtout vers la vallée du Rhône. Je rappelle que les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge pour feux de forêt, donc on reste prudent. Et puis on peut avoir une petite averse qui se développe en fin d'après-midi, début de soirée vers les Alpes du Sud et la montagne Corse. Plus on investit les régions du nord et plus il faudra faire avec les nuages là où ils seront vraiment bien présents. Ça sera sur tout le littoral de la Manche, ponctué de quelques petites gouttes par endroit et puis aussi du vent en rafale jusqu'à 50 km/h. Et donc l'ambiance pourra être assez automnale. Et puis aussi au niveau du quart nord-est, les nuages seront bien nombreux avec un petit peu de brouillard en matinée.
Mais Frisquet, nous dit Aline en Normandie. Mais Claire, les températures vont remonter dans les prochains jours.
Oui, absolument. Donc là, on est en très légère hausse, mais ça reste encore un tout petit peu frais pour la saison. Même si on a plus de 20 degrés déjà en Méditerranée, partout ailleurs, il faudra faire entre 8 et 13 degrés pour la moitié nord, 10 à 16 degrés pour la moitié sud. Dans l'après-midi, ça va jusqu'à 24 degrés pour les régions du nord, 24 à 30 degrés partout ailleurs. Plus de 30 degrés évidemment en Méditerranée, mais à partir de cette semaine, surtout à partir de mardi, mercredi, une vague de chaleur va à nouveau nous concerner. Surtout le sud-ouest, on pourrait atteindre des pointes allant de 34 jusqu'à 36 degrés.
Merci Claire Delorme, 64 900 avec le mot matin pour le temps chez vous. Vous écoutez RTL, l'information, 7h30.
RTL Matin.
L'actualité avec Victor Porchet. Bonjour Victor.
Bonjour Antoine et bonjour à tous. C'est l'arnaque qui peut complètement gâcher vos vacances. Les autorités alertent sur ces milliers de mails vérolés qui arrivent dans certaines boîtes mail. Le ton est alarmiste. Ils vous assurent que vos chèques vacances arrivent à expiration. Évidemment, c'est totalement faux. Tous ceux qui sont reçus cette année sont valables jusqu'à fin 2027. Mais Mathilde Piquet, tout a pourtant l'air bien réel.
Oui, la même identité visuelle que les services de l'État, aucune faute d'orthographe et même une référence de dossier. Seule petite coquille, le destinataire du mail, l'ANVC, et non l'ANCV, Agence Nationale pour les Chèques Vacances. Un type d'arnaque amené à se multiplier selon Adrien Merveille, expert informatique chez Checkpoint.
Elles sont de mieux en mieux faites. L'arrivée de l'intelligence artificielle permet d'améliorer grandement la qualité de ces attaques. Cette attaque, elle est très pertinente dans le sens où on est en plein milieu des congés et c'est fait exprès.
Montant récupérable 350 €, un gain alléchant pour en réalité vous soutirer vos données personnelles, voire vous demander de valider un paiement.
Le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est de privilégier, d'aller chercher le site qu'on cherche à atteindre directement dans un navigateur. Comme si vous alliez par vous-même en fait le chercher, vous allez tomber sur les catégorisations des moteurs de recherche et vous allez en général tomber sur les bons sites.
Bien sûr, supprimez tout de suite le message si vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une arnaque et signalez-le à l'administrateur de votre boîte mail.
Les bons conseils de Mathilde Piquet pour RTL. Un autre danger des vacances, surtout si vous êtes dans le sud-est en ce moment. Tout le pourtour méditerranéen est en vigilance aux feux de forêt. Aujourd'hui, c'est même rouge dans les Bouches-du-Rhône, département particulièrement touché par les incendies depuis le début de l'été. Alors, mesure radicale de prévention, tous les massifs forestiers sont fermés ce week-end, notamment autour de Marseille et ses fameuses calanques. Manon Meilleur, coup dur pour les touristes.
Oui, et ici la route d'accès à la Calanque est fermée par une barrière. Quand un petit groupe de vacanciers s'approche, c'est Sylvie, l'une des gardiennes du parc, qui vient les accueillir.
Messieurs, dames, les Calanques sont fermées. Risque majeur d'incendie. Désolé.
Alors ils rebroussent chemin, la mine un peu dépitée. Haïfa, une Parisienne en vacances à Marseille, doit faire une croix sur ses envies de visiter les Calanques ce week-end.
C'est notre première fois ici, donc on est déçus. Oui. On voulait découvrir, on voulait voir.
Après, s'ils disent qu'il y a un risque pour la sécurité de qui que ce soit, c'est normal qu'il faut respecter et qu'il faut partir, c'est tout en fait.
Et effectivement, avec la sécheresse, les fortes chaleurs et les rafales de vent à 50 km/h, une simple étincelle peut transformer le massif en véritable brasier. Alors l'objectif, c'est de limiter les risques, vu que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Athème, un autre des gardiens du parc, le sait bien, il voit des comportements irresponsables tout l'été.
Les gens ils comprennent pas qu'il faut pas jeter les cigarettes et malheureusement si on passe sur la route on voit qu'il y a des mégots de partout. Comme il y a du vent, malheureusement on est obligé de fermer parce que les pompiers ils sont débordés en ce moment.
Alors aujourd'hui les gardes du parc ont dû barrer la route à plus d'une centaine de visiteurs. La mesure est globalement bien acceptée parce que ces dernières années les fermetures des massifs à cause des risques d'incendie se sont banalisées.
La correspondante de RTL à Marseille, Manon Meyer, notait aussi vos conditions de circulation pour aujourd'hui. Après le pic à plus de 1000 km de bouchons cumulés hier, c'est orange dans le sens des départs, orange aussi mais uniquement dans le sud-est pour les retours. Dans l'actualité également, une infirmière de l'hôpital de Montreuil mise en examen pour viol sur mineur mais aussi captation et diffusion d'images pédopornographiques puisqu'elle aurait filmé ses actes. Elle a affirmé aux enquêteurs avoir agi sous emprise, celle de son ex-compagnon, lui aussi poursuivi. Le parquet a exclu l'hypothèse selon laquelle la suspecte s'en prenait à des bébés noirs, accusation qui avait enflammé le réseau social TikTok.
Les accusations peuvent rappeler l'affaire Dominique Pellicot. À Dijon, une femme vient de porter plainte contre son mari.
Un sexagénaire mis en examen, il est soupçonné d'avoir fait boire de l'alcool à son épouse jusqu'au trou noir, puis de l'avoir violée et faite participer à des soirées libertines, Planara Radenovic.
Oui, tout a démarré en pleine nuit, vendredi. Il est un peu moins de 3h du matin lorsqu'un homme appelle la police. Il dit sortir d'une soirée libertine et avoir des doutes sur le consentement de la femme qui lui a prodigué une fellation. Devant les enquêteurs, en effet, cette femme de 44 ans disait avoir bu de l'alcool et ne se souvenir de rien. Tandis que son mari, âgé lui de 62 ans, confirme la soirée libertine. La femme dépose plainte contre son mari finalement et lui continue de nier, de dire qu'elle était consentante. Une version qui n'a pas convaincu visiblement la justice. Une information judiciaire a été ouverte pour viol aggravé par deux circonstances, le lien conjugal et l'administration à l'insu de la plaignante d'une substance altérant son consentement. Les mêmes chefs exactement que dans l'affaire des viols de Mazan.
Planara Radenovic du service police-justice de RTL. Ne pas se tromper d'élection. C'est l'appel de Michel Barnier à Rachida Dati dans les colonnes de la tribune dimanche ce matin. Les deux LR au cœur d'une lutte interne. La ministre de la Culture a décidé cette semaine de maintenir sa candidature à l'élection législative partielle à venir dans la deuxième circonscription de Paris. Elle estime que celle de Michel Barnier est une manière pour lui de préparer la quête de la mairie de la capitale qu'elle convoite de longue date. L'ancien premier ministre dément.
Israël sous le choc face aux nouvelles vidéos d'un otage aux mains du Hamas.
Deux vidéos en deux jours publiées par les terroristes palestiniens. Eviatar David, 24 ans, enlevé le 7 octobre lors d'un festival de musique, est méconnaissable, extrêmement maigre dans un tunnel de Gaza. Betsabé Salem, correspondante de RTL à Tel Aviv, des images horrifiantes pour les familles d'otages.
On peut voir le jeune homme, la peau sur les os, en train de creuser sa propre tombe, dit-il. Eviatar David explique qu'il mange à peine et ne pense pas pouvoir survivre longtemps. Cet otage est méconnaissable. Les médias affichent le parallèle terrible entre sa photo d'avant, le 7 octobre, et sa nouvelle silhouette. Le Hamas a fait de lui un squelette vivant, affirme sa sœur. En réaction à ces images qui rappellent la Shoah, ici en Israël, un rassemblement a eu lieu place des otages, lors duquel des familles d'otages se sont enfermées derrière des barbelés. Plusieurs d'entre elles ont pris la parole, comme le père de Gaï Ilouz, otage mort en captivité.
Combien de vidéos de ce genre on va encore voir? Ça fait déjà 666 jours de pur traumatisme. Non seulement nos enfants ont été enlevés, mais nous aussi on est pris en otage. J'ai tout perdu, j'ai perdu l'espoir, j'ai perdu toute joie de vivre.
Plus tard, l'envoyé américain Steve Witkoff en personne débarqué sur la place. Il a rencontré des familles d'otages pendant 3 heures, évoquant un nouveau plan des États-Unis pour parvenir à un accord avec le Hamas. Mais en Israël, il n'y a que peu d'espoir qu'un accord puisse encore voir le jour.
Betsabé Salem pour RTL. Notez cette réaction cette nuit du premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou s'est dit consterné par ces dernières vidéos. Il affirme également dans ce communiqué avoir parlé avec les familles. Près de 800 000 jeunes catholiques en transe hier à Rome pour accueillir le pape Léon XIV, arrivé en hélicoptère blanc avant de s'adresser à la foule sur l'immense esplanade Tor Vergata, point d'orgue du jubilé, événement catholique catholique rarissime. La plupart des fidèles ont passé la nuit sur place avant une messe célébrée ce matin.
Il est 7h38.
RTL Sport.
Et ce sera très probablement le jour de gloire pour Pauline Ferrand-Prévot.
9e et dernière étape du Tour de France Femmes cet après-midi. Et la Française a le maillot jaune bien collé à la peau ce matin après son exploit d'hier, cette montée du col de la Madeleine tonitruante et plus de 2 minutes 30 d'avance au général au sommet. La victoire sur la grande boucle semble promise à celle qui est déjà championne olympique de VTT pour le plus grand bonheur de la directrice de course et amie d'enfance de Pauline, Marion Rousse.
Franchement, je ne sais plus où j'habite là. C'est un moment juste incroyable, un moment exceptionnel qui marquera l'histoire. Histoire du sport en fait, c'est fou et puis voilà, Pauline, on a commencé la compète, on avait 10 ans ensemble et de vivre ça toutes les deux, c'est j'ai pas les mots. Pourtant je parle beaucoup d'habitude, mais là je sais pas quoi dire, tellement je suis contente pour elle, tellement je suis fière pour le cyclisme féminin. Et puis voilà, je savais de toute façon quand elle revenait dans le peloton, qu'elle reprenait son vélo sur la route, qu'il n'y aurait pas plus beau modèle qu'elle pour les petites filles. Et là, ce qu'elle a fait, j'ai pas les mots.
Marion Rousseau, micro de France Télévisions.
Et on sera avec Laurent Jalabert, hein, notez-le bien, à 9h10, le consultant cyclisme de RTL vient nous dire tout le bien qu'il pense de PFP, Pauline Ferrand-Prévot, la star du jour.
Coup de chaud à la piscine des Mondiaux de Singapour ce matin. Léon Marchand nous a fait peur, mais il s'est sorti des séries du 400 mètres 4 nages. Les garçons du relais 4 x 100 mètres 4 nages viennent aussi de se qualifier pour la finale. Encore de l'or, je vous le rappelle, pour Maxime Grousset hier, le Français sacré sur 100 mètres papillon. Il a récupéré au passage le record d'Europe. C'est son deuxième titre de la compétition dans cette nage après le 50 mètres.
Et dans 10 minutes, RTL événement en direct de Singapour avec l'envoyé spécial de RTL, Isabelle Langer. De la Formule 1 au programme Victor, départ du Grand Prix de Hongrie à 15h.
Avec en pole position, une surprise, Charles Leclerc sur Ferrari qui devance les deux McLaren. Étonnant, on peut le dire, Frédéric Veil, puisque même le Monégasque n'en croyait pas ses yeux.
Ah oui, Charles Leclerc a été le premier surpris hier en décrochant la pole position, sa première de l'année, la première d'une Ferrari cette saison. Écoutez sa réaction après avoir franchi la ligne.
T1. Oups. Mamma mia, oh my God.
Le monégasque, tout sourire et point levé en s'extrayant de sa monoplace, partira donc cet après-midi en première ligne devant les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Grosse déception pour Max Verstappen et Lewis Hamilton qui ne s'élanceront qu'en 8e et 12e position. Déception aussi pour les Français. Pierre Gasly et Esteban Ocon partiront 17e et 18e. Itzak Adjar se classe 10e. La réaction du Parisien au micro de Canal+.
Ah, c'est dommage que le classement, on devait jouer la 7e place et c'était vraiment notre position. Donc en partant 10e, on va aller chasser devant et essayer de marquer les points. Mais c'est dommage.
Le départ du Grand Prix de Hongrie, c'est cet après-midi à 15h.
Avec un Itzak Adjar 10e, un Pierre Gasly 17e sur la grille, un Esteban Ocon 18e. Toute l'actualité de la Formule 1, c'est à retrouver sur le site et l'application RTL. Et puis de l'athlétisme avec un record du monde battu au championnat de France hier. Gabriel Bordier a bouclé le 10 km marche en 37 minutes, 23 secondes et 99 centièmes. Et sur une toute autre vitesse, après le 100 mètres, Ryan Zézé a fait le doublé en s'imposant sur le 200.
Merci beaucoup Victor Pourchet. Toute l'actualité, RTL.fr, l'application RTL. Jean-Sébastien, j'ai une question de Franck sur la page Facebook. Oui. Il se demande quand RTL Matin Weekend compte visiter Nice et sa région.
Mais quand vous le souhaiterez, cher Antoine.
Oh bah, attendez, c'est vous aussi le capitaine. Hein. On est deux capitaines à bord, je vous le rappelle, à sélectionner les régions du jour. En tout cas, Franck nous fait tout le programme. Hein, si on veut y aller, la coulée verte, la cascade du château, la pisse à la dière, le pain bagnat, la daubnissoise.
Franck. Le musée Matisse, la vallée de la Roya.
Promis, on y réfléchit et on vous tient au courant dans un instant. C'est la destination du jour, le canal de Bourgogne. On vogue ce matin sur RTL.
Antoine Cavallero, RTL Matin Weekend. On en parle.
Depuis 135 ans, l'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle avec Arnaud Fontanet, chercheur. Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous résumer en quelques mots les actions de l'Institut Pasteur ?
Oui, nos recherches concernent en priorité les maladies infectieuses, la résistance aux antibiotiques, les cancers.
mais nous étudions aussi la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer.
Et précisez-nous votre domaine d'intervention.
Alors moi-même, je suis médecin épidémiologiste. Je travaille principalement sur les virus qu'on appelle émergents. On envoie des équipes sur le terrain pour comprendre comment ces nouveaux virus se transmettent, quelles seraient les complications pour les personnes infectées. Ouais. Nous nous sommes beaucoup investis dans la recherche sur le Zika, par exemple, ou la Covid-19.
Alors j'imagine que les legs, assurance vie et donations sont nécessaires à vos avancées.
Ah, ils sont absolument essentiels. Ce sont les legs de nos généreux testateurs qui nous permettent, jour après jour, de poursuivre nos recherches.
Merci.
On en parle. Pour en savoir plus, appelez le 0805 215 216. Appel gratuit.
Besoin de faire le plein d'énergie ? EDF vous a concocté le jus de l'été. Alors, je prends un service client haut de gamme, j'ajoute des kilowattheures pour la puissance, j'enlève quelques euros pour la légèreté, je mélange, et voilà, c'est plein d'énergie.
En ce moment, profitez de jusqu'à moins 6% sur le kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé avec une qualité de service numéro 1 du secteur. Études Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. Infos et conditions sur edf.fr/nos-offres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Grenache, un cépage qui donne des rosés généreux.
Ah, ici, côté soleil, je suis servi. J'aime quand il fait encore chaud en fin de journée. C'est comme ça qu'on apprécie ma fraîcheur et ma vivacité. Vous ne seriez pas bien avec moi, là, les pieds dans l'eau ?
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero.
Il est 7h44, dites donc Jean Seb, les messages pleuvent, 64-900 avec le mot matin. Nous avons Nicole qui vous précise que dans Lyon, il y a aussi Pierre Larousse.
Absolument, qui est né à Toussy. Oui, c'est à une dizaine de kilomètres au sud-ouest d'Auxerre.
C'est un magnifique village.
Mais là, je ne m'avancerai pas plus loin parce que je laisse le domaine de Pierre Larousse à notre spécialiste, qui est Muriel Gilbert. Je ne touche pas au dictionnaire.
Muriel Gilbert qui arrive tout bientôt. Merci en tout cas à Nicole pour son message. On voyage donc cet été sur RTL. On se promène ce matin dans Lyon. Et si on veut des slow vacances, tranquilles, lentes, au rythme d'un bateau naviguant sur un canal, le canal de Bourgogne, Jean Seb, vous confirmez, c'est plutôt pas mal.
Canal de Bourgogne qui relie le bassin de la Seine au bassin du Rhône, qui part de Migennes sur Lyon, qui va jusqu'à Saint-Jean-de-l'Aune sur la Saône. Alors si vous êtes fan de passage d'écluses, vous allez être servi. Sur 242 km, il y en a 189. Donc, les écluses, ça va vous connaître. Mais c'est aussi un canal de petit gabarit qui est aujourd'hui utilisé essentiellement pour la plaisance. Il est très touristique et puis vous allez passer des régions vallonnées, des régions bucoliques. Si vous voulez en avoir un aperçu, revoyez les valseuses de Bertrand Blier. Depardieu, Devers, Balance, Miu Miu. Dans l'eau du canal de Bourgogne, c'est très exactement à l'écluse de Beaugé vers Pont-d'Ouche. Et au-delà du film, vous allez voir que cet endroit est un pur bonheur et que ces vacances sont des vraies vacances hors du temps.
Un paradis Lyon. Merci Jean-Sébastien. Et justement, ça y est, Flora Granchette, notre reporter sur le terrain, est en direct du canal près de Joigny. Flora, vous êtes montée à bord d'une péniche qui s'appelle le Fistoulic et vous êtes aux côtés du capitaine.
Et oui, je suis avec Philippe Klimacek à la barre. Bonjour.
Bonjour.
Et du coup, là, on est en quelle direction, Philippe ?
Eh bien, là, on va sur Auxerre. On démarre de Joigny et on a 11 écluses à passer, 6h30 de navigation.
Ah oui, quand même. Bon, là, on est vraiment seul au monde. Il y a quelques cygnes, des canards. Philippe, vous êtes habitué à faire des promenades sur ce canal. Qu'est-ce qu'il y a de magique à naviguer sur ce canal de Bourgogne ?
La tranquillité, le côté magique, c'est la tranquillité, la sérénité. On prend du temps au temps, on va doucement, on a le temps de regarder, on a le temps de vivre, on a le temps d'explorer toute la faune et la flore qui entoure les canaux. Et puis surtout qu'on arrive à voir des sites assez intéressants depuis les canaux. Justement, on passe dans les villes ou dans les villages avec des accès uniques par le fluvial.
Et alors vous avez un parcours particulier, vous avez fait de la haute mer, vous étiez skipper, vous avez fait la route du Rhum, et vous êtes devenu un peu marin d'eau douce, si je peux dire. Et du coup, c'est différent du coup de la navigation fluviale, est-ce que c'est mieux que la haute mer, c'est différent?
C'est totalement différent. Alors quand on dit marin d'eau douce, j'aime pas trop parce que bon, c'est pas très sympa. Je comprends bien. Non, la navigation est totalement différente, évidemment. En haute mer, on est confronté à des configurations météo et autres totalement violentes, brutales. Alors que sur les canaux, évidemment, c'est beaucoup plus calme, c'est plus sympa, mais je balade des gens, je propose des promenades sur les différents canaux, Lyon et le Nivernais, depuis Auxerre, hein, puisqu'en fait on a la chance d'avoir ces deux canaux qui commencent à Auxerre.
Et vous tenez quand même à en parler brièvement, vous promenez des touristes, mais surtout des enfants malades grâce à votre association du nom de votre bateau.
Exactement, donc j'ai monté une association du nom de mon bateau et effectivement je promène des gens et chaque euro gagné avec ces gens-là est directement transféré sur mon association, et ce qui me permet de faire des projets pour les enfants malades que je promène comme ça de temps en temps.
Voilà, le message est passé.
Merci Flora, en direct d'une péniche à Joigny dans l'Yonne, et on continue évidemment de suivre vos aventures le long du canal de Bourgogne. Merci aussi à Jean-Sébastien Petit-Demange. Dans une demi-heure, nous serons avec un vigneron du coin. On va parler bonne bouteille et vendange. Il est 7h49.
RTL Matin avec Antoine Cavaillé.
Dans le journal de 8h à venir, notre reportage au-dessus de Gaza. L'envoyé spécial de M6 à bord d'un avion militaire français, un avion qui vient de larguer de l'aide humanitaire au-dessus de l'enclave palestinienne. Les mois à Montreuil, une infirmière mise en examen pour agression sexuelle sur des nourrissons, son ex-compagnon soupçonné d'être l'instigateur. Et puis les sports, Pauline Ferrand-Prévot immense hier dans le col de la Madeleine, elle a le maillot jaune et tout à l'heure, elle peut remporter le Tour de France Femmes.
RTL événement.
Les sports, ce sont aussi les mondiaux de natation à Singapour. Nous sommes en direct avec Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Léon Marchand disputera bien la finale du 400 mètres 4 nages cet après-midi, mais on va pas se mentir, ce matin, on est un peu inquiet pour le roi des bassins. Il s'est qualifié avec le 7e temps des séries.
Franchement, on ne s'attendait pas à ça, d'autant que sur le premier 50 mètres en papillon, Léon Marchand était en avance sur son propre record du monde. Et puis petit à petit, on l'a vu marquer le pas, faire des coulées moins performantes que d'habitude, respirer plus souvent. Du coup, comme Denis Hauguin, le DTN, et Michel Chrétien, l'entraîneur en chef, eh bien, on a eu un peu peur que ça ne passe pas en finale.
J'ai trouvé ça un peu trop relâché à mon goût. Pas d'inquiétude, mais bon, je voyais chrono tourner. Je me disais quand même, c'est passé, mais
on a un peu serré les fesses quand même jusqu'à la fin des séries.
Excusez l'expression un peu familière de Michel Chrétien, mais c'est vrai que ce matin, Léon Marchand a joué avec le feu pour celui qui est aussi l'entraîneur de Maxime Grousset.
C'est toujours le problème de se dire qu'on veut se réserver et on dénage et les choses deviennent difficiles. C'est ce qui s'est passé pour Léon. C'est ce qui se passe généralement quand les nageurs ne veulent pas se livrer totalement. Ils sont pas vraiment dans leur tempo et ils se fatiguent. Ils n'ont pas les mêmes vitesses de déplacement, les mêmes sensations, les mêmes rythmiques et donc les mêmes rythmiques respiratoires. Donc on s'épuise plus des fois à vouloir s'économiser. Et donc je crois que ce matin, c'est ce qui s'est passé au 400 4 nages.
Bon, Isabelle, Léon Marchand, lui, il en a pensé quoi de sa prestation ?
Eh bien écoutez, quand on l'a retrouvé en zone mixte, c'est-à-dire juste après sa course, il avait l'empreinte de ses lunettes qui étaient toutes rouges autour de ses yeux, et des petits yeux d'un champion que l'on sentait fatigué. Nous lui avons demandé si son chrono, cette 7e place, lui convenait.
Non, j'aurais préféré faire le meilleur temps ce matin, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'étais un peu dans le dur, bizarre parce que j'ai bien dormi, je me sentais bien ce matin. Mais voilà, c'est la natation, donc carrément tu te plonges et tu te sens pas bien. J'ai essayé quand même d'envoyer le premier 200 mètres, mais même ça, j'étais un peu en force, pas forcément relâché, donc c'était pas dingue.
Ça t'inquiète un peu ?
Ouais, 4-13, c'est pas... Je crois que sur les derniers championnats du monde, je nage 4-8 et 4-9 le matin. Donc oui, ça m'inquiète, après j'ai une ligne ce soir. Donc au final, ça passe. Les centièmes étaient de mon côté, donc j'ai eu la chance ce matin. Mais voilà, ce serait mieux ce soir.
Sur une ligne extérieure en plus, Léon.
À la vague, je verrai que d'un côté. C'est pas très grave, je vais essayer de faire ma course, de pas, justement de pas trop regarder à côté. C'est vrai que ce sera plus difficile de contrôler la course, donc il va falloir que... Je pourrais pas me cacher, il va falloir y aller dès le début.
Elles sont lourdes les jambes là?
Ouais, pas que les jambes, tout. Un peu tout. Et puis 400 mètres 4 nages le dernier jour, c'est une des premières fois que je fais ça. Donc ouais, c'est pas facile, je vais essayer de récupérer au maximum, faire une bonne sieste et on verra cet après-midi.
Ouais, on espère que la sieste sera bonne, que ça ira mieux aussi dans la tête, comme il le dit. On le sent quand même sacrément essoufflé, Isabelle. Surtout que cet après-midi, Léon Marchand n'a pas que la finale du 400 mètres 4 nages à disputer.
Effectivement, Guillaume, une demi-heure après, il aura le relais du 4 nages pour disputer le 100 mètres brasse. La question lui a été posée tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il a envie de le faire.
Voilà, je viens de nager, donc j'ai pas encore réfléchi à tout ça. J'ai envie de faire les deux, moi. Après, je sais pas, voilà. Physiquement, je pense que ça va pas être facile. Et surtout, faut que je me concentre surtout sur le 404. Faut pas que je pense au 100 brasse après. Et une fois que j'aurai fini mon 400, je penserai au relais, quoi. Mais oui, j'ai envie de faire les deux. C'est un bon relais en plus.
Je vous confirme que l'équipe de France compte sur Léon Marchand pour ce relais. Écoutez Michel Chrétien et Denis Auguin.
Essentiel, indispensable, parce que de toute façon, Léon, c'est lui qui est le meilleur brasseur en France. On n'a pas mieux dans le magasin.
Physiquement, il peut ?
Je pense qu'il peut, bien sûr. Après ce matin, on voit bien si on veut jouer quelque chose ce soir, on est trop juste en brasse pour jouer une médaille. Donc il faut forcément tenter quelque chose. Voilà. Après, on verra bien, mais on est obligé de prendre un peu de risque ce soir.
Le relais tricolore sera donc composé des trois médaillés de Singapour, Johan Ndoye-Brouars pour le 100 mètres d'eau, Léon Marchand pour le 100 mètres brasse, Maxime Grousset pour le 100 mètres papillon, et ce sera Yann Le Goff qui aura la lourde tâche de conclure avec le 100 mètres nage libre. L'an dernier au JO, les Bleus qui alignaient Florent Manodou à la place de Yann Le Goff avaient décroché une belle médaille de bronze.
Isabelle Langer en direct de Singapour, RTL, événement Léon Marchand dans les bassins. Cet après-midi à Singapour, ce sera évidemment à suivre en fil rouge sur RTL. On fera le bilan de ces mondiaux également dans On refait le sport. Rendez-vous 18h30 avec Jean-Michel Rascol.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Vous l'adorez, elle est là tous les week-ends, Muriel Gilbert. Elle joue avec la langue française, elle nous apprend des choses. On réécoute le meilleur du meilleur. Bonjour Muriel.
Bonjour Antoine, ami des mots, bonjour.
Et ce matin, on donne dans le bonbon classieux, si j'ai bien compris.
Ah oui Antoine, j'ai envie de vous parler d'une expression chic, en effet. Un peu surannée aussi, peut-être, qui génère quantité de fautes d'orthographe, parce qu'elle est basée sur un mot rare, qui sonne comme un autre, qui lui nous est très familier au contraire. Comment écrivez-vous, cher Antoine, la locution « peu me chaud » ?
Écoutez, je ne vais pas répondre à ce genre de questions avant 9h du matin, c'est dit.
Eh bien, « peu me chaud », Antoine. C'est-à-dire, ça m'est égal. On peut aussi dire « peu manchot » d'ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est une formule vieillotte qu'on emploie aujourd'hui, surtout par plaisanterie. Valérie annonce un samedi pluvieux sur RTL. « Peu me chaud, je prends l'avion pour les Antilles dans une heure ». Mais quel est ce drôle de chaud ?
Ouais, pas le chaud du chauffage, j'imagine.
Et non, d'ailleurs ce chaud ne s'écrit pas C-H-A-U-D, comme celui de j'ai trop chaud, ainsi que je l'ai vu encore hier sur Facebook, mais C-H-A-U-T. Eh bien, figurez-vous que ce chaud est tout ce qu'il nous reste d'un verbe disparu depuis bien longtemps de notre langue, chaloir. Le dictionnaire de Furtière, qui date de 1690, le qualifie déjà de vieux mot. C'est dire l'ancienneté de cette curiosité. Alors, chaloir est devenu ce qu'on appelle un verbe défectif, c'est-à-dire qui n'existe plus à tous les temps ou à toutes les personnes. Il se limite d'ailleurs à une seule et unique forme, il chaud. Troisième personne du présent de l'indicatif. Point final.
Pratique à apprendre plutôt. Et donc le verbe, c'est chaloir, Muriel ?
Absolument, chaloir, C-H-A-L-O-I-R, qui signifiait importer. Importer dans le sens de sa compte, pas dans le sens de Donald Trump ne veut plus importer de cognac français. Bref, peu me chaud, c'est l'ancienne version de peu m'importe. Le plus rigolo, c'est qu'on pourrait quand même considérer que ceux qui font l'erreur de l'écrire C-H-A-U-D ne sont pas si loin du compte que ça. En effet, chaloir vient du verbe latin calere, signifiant à la fois s'inquiéter et être chaud, figurez-vous. Et c'est vrai qu'on peut bouillir d'inquiétude après tout. Alors, il nous reste aussi un adjectif de la famille de chaloir, c'est nonchalant. Nonchalant. Celui qui est nonchalant ne s'en fait pas.
Bref, peu lui en chaud.
Exactement, Antoine. Peu lui en chaud, c'est H-A-U-T. Tiens, ça me fait penser à une autre expression chic et vieillie qui cause bien des soucis à ceux qui l'emploient par écrit, c'est l'heure.
Mais quelle heure ?
Ah, pas l'heure H-U-R-E de « Il est 9h moins le quart » sur RTL. Non, l'heure de « Je n'ai pas l'heure de vous connaître, chère madame » ou de « Il n'a pas eu l'heure de lui plaire ». Cette heure est masculin, contrairement à l'heure qu'il est, et il ne prend pas de « e » final. Il vient du latin « augurium », signifiant « présage, favorable ou non ». C'est l'heure que l'on retrouve dans une série de mots joyeux. Bonheur, heureux, heureusement.
Et aussi dans un mot moins joyeux, le malheur.
Alors en effet, on l'aime moins celui-là. Ah, et il y a un autre heur au masculin avec lequel il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, c'est le heur H-E-U-R-T du verbe heurter, qu'on utilise d'ailleurs le plus souvent au pluriel, hein, les heurs entre la police et les manifestants. Et puis, avez-vous remarqué, il y a une autre différence entre le heur de heurter et l'heure du bonheur, c'est que le premier commence par un H aspiré, c'est pour ça qu'on dit le heur, tandis que l'autre commence par un H muet, donc on dit l'heure.
Et qu'est-ce qui explique cette différence, Muriel ?
Eh bien, les H à l'initiale des mots issus du latin sont muets en général, c'est-à-dire que c'est comme s'ils n'étaient pas là, comme si le mot commençait par une voyelle, tandis que les H issus des langues germaniques sont des H aspirés, donc qui ne permettent ni liaison, ni élision. Donc, heurter vient du francique, la langue des Francs, qui est une langue germanique. Voilà pourquoi, entre police et manifestants, on parle de heur et non d'heure.
Eh bien, ce fut un bonheur de vous entendre, Muriel, mais maintenant, sans vouloir vous heurter, il est l'heure de fermer le paquet de bonbons sur la langue.
À samedi prochain, ami des mots.
Denis, l'ami charcutier de Dole, a écouté Jean-Sébastien. Il prépare du jambon persillé, spécialité bourguignonne. La région qu'on visite ce matin, dans un quart d'heure, nous serons avec un vigneron pour parler des vendanges. Jacques et René ne sont pas loin, ils nous écoutent dans le Jura. Béatrice, elle, est à Montèche. Claire, elle a un petit 13 degrés ce matin, pas très loin de Montauban donc.
Oui, alors c'est vrai que ces 13 petits degrés du côté de Montauban sont peut-être encore un petit peu frais pour la saison, mais le ciel devrait être en tout cas bien dégagé et ça sera le cas toute la journée sur une large moitié sud avec quand même une petite évolution diurne classique en fin d'après-midi vers les Alpes du Sud et la Corse, donc en fin de journée, et puis toujours ce mistral et cette tramontane jusqu'à 70 km/h. Je tiens à rappeler que les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge pour feux de forêt. On reste prudent, surtout vraiment très prudent, et puis plus on va vers le nord et plus